J'arrive tout de suite. Hein. J'arrive. Oui. Ah oui, ça fait du bien. D'accord. Non, mais je... Merci. Maintenant, vous faire un petit point sur l'état de la théologie morale à l'époque du Concile, c'est-à-dire dans les années 60, avant et après. La théologie morale à l'époque du Concile, au moment où s'ouvre le Concile Vatican II, est dans un état pitoyable. Hein, pitoyable.
Donc c'est récurrent.
Alors malheureusement, c'est... c'est pas un des domaines de la théologie qui est le plus simple à enseigner. D'ailleurs, souvent... Oui. Alors, dans un état pitoyable, c'est-à-dire que c'est une morale... qui est en gros celle de la première moitié du XXe siècle, qui représente, qui est d'abord une morale des péchés et non pas une morale des vertus. Alors ça, je pense que c'est... très important de reprendre l'expression morale des péchés et non pas morale des vertus, morale de confesseur une morale fondée sur l'idée de essentiellement de transgression des fautes. C'est également une morale qui est, je le détaillerai pendant le cours, héritière de ce que l'on a appelé le néo-thomisme. Bon, mais je vous dis, vous déjà le noter, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Thomisme, néo-thomisme, je vous dirai de quoi il s'agit. Donc une morale de confesseur et une morale qui est focalisée complètement sur ce qu'on appelait dans les séminaires, quand on formait les futurs prêtres, en fait le cours de morale, alors déjà, encore une fois, hein, le cours de morale c'est donc fait par des hommes pour des hommes, qui vont devenir des prêtres. Vous voyez, c'est... Et les prêtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils confessent. Vous voyez, c'est comme ça que c'est ça la structuration de la morale. Et ils confessent quoi?
Il faut le péché.
Oui, mais spécialement.
Le péché, la foi.
De chair.
Oui. Ce qu'on appelait dans les séminaires le de sexto.
Joli.
Joli, hein.
Pour dire.
Je vous laisse libre, je ne sais pas si ça a porté, si ça a porté assez à l'enregistrement. Donc le de sexto, c'était le du sixième commandement. Hein? Et le du sixième commandement, ouais, de sexto, du sixième commandement. Quand j'avais fait ma thèse, j'étais allé, j'ai tenté, puis je me suis vite arrêté parce que ben, récupérer les archives des enseignants qui ont maintenant 90 ans, 80, ils étaient un peu plus jeunes quand j'ai fait ça, mais, ou bien des séminaristes qui sont qui ont donné, etc. Je suis dominicain, des dominicains, etc. D'abord, je me suis rendu compte que c'était inutile parce qu'ils ont tout jeté, comme quoi, voilà, ils n'ont rien gardé, il n'y a pratiquement pas d'archives. Et les seules choses qui sont publiées, donc sont déjà connues, en fait, et attestent de cela. Or, les prêtres hein, de la génération qui sont octo ou nonagénaires maintenant, vous disent quoi? Ils vous disent tous, hein, si vous faites quelques entretiens de type sociologique, hein, ils vous disent tous, ah ben on vous parlait du de sexto, parce que c'est le de sexto qu'il fallait confesser et pour lequel il fallait donner des pénitences, etc. Donc c'est une morale qui est focalisée sur le péché de chair, hein, sur le sixième commandement. C'est une morale, encore une fois, de confesseur.
C'était de la graine à fantasme, ça, c'est vrai.
Ah oui, oui, c'est une... c'est certain. C'est une morale de confesseur et une morale qui, conceptuellement, oui, était extrêmement abâtardie, extrêmement pauvre. Hein, et héritière directe du néo-thomisme. Je vous détaillerai ce qu'est le néo-thomisme. Bon. Je vous dis ça parce que le Concile Vatican II a quand même apporté un souffle considérable sur la morale. Même si je vous ai dit, il ne s'est rien passé du côté de la morale familiale et sexuelle. Paul VI a bloqué le concile là-dessus parce que ça avait été déjà trop polémique avant, mais on a eu des outils extraordinaires après le concile pour renouveler la morale. Les outils, on les connaît. Hein, c'est ce qui me frappe maintenant, lorsqu'on me dit on va lister ce qu'on pourrait faire en Église pour changer tout ça. Les outils, on les connaît, on les a utilisés dans les années 70 et 80. C'est-à-dire que les théologiens moralistes ont profité de l'ouverture du Concile Vatican II dans leur discipline, c'est pas, pour la renouveler, et pour la renouveler en allant chercher des disciplines extérieures à la théologie. C'est-à-dire, ils ont ressourcé, si vous voulez, ils ont aéré la théologie morale qui était en décrépitude absolue depuis le premier quart du XXe siècle, si vous voulez, à l'aide de sciences extérieures qui parlaient de quoi? Qui parlaient de la condition humaine.
C'est-à-dire qu'avant, la morale, enfin, si je vous suis bien, quand on parlait de morale,
oui,
elle n'était que envisagée sous l'angle des sextos.
Oui.
C'est-à-dire qu'on, voilà, c'était réduit aux affaires.
Non. De... Là, je parle de, je parle d'un focus. Je ne vais pas dire non plus que les papes, notamment Léon XIII et tout, les grands apports sur la morale avant le Concile sont des apports qui concernent la morale économique et sociale, hein, c'est-à-dire essentiellement le Rerum Novarum, par exemple, qui a été une encyclique sociale majeure, etc. Mais ça, ce sont des grands... en ce qui concerne la vie quotidienne des gens... si j'ose dire, le parent pauvre, hein, ça a été la vie, la morale familiale et sexuelle, qui était une morale d'encadrement, si vous voulez, fondée sur le commentaire et la mise en pratique du De Sexto. Vous savez, on formait quasiment pas les futurs prêtres à Rerum Novarum, hein, aux implications concrètes de Rerum Novarum. On formait dans les séminaires les futurs prêtres au De Sexto. Point barre. Donc pour renouveler cette théologie qui était un peu à bout de souffle, justement, le souffle du Concile a permis d'introduire dans la théologie des disciplines qui ne venaient pas de la théologie, mais qui étaient disciplines extérieures, et des disciplines qui s'intéressaient à la condition humaine. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle quand on fait de la morale. Hein. Ça paraît peut-être évident aujourd'hui, mais c'était tout à fait novateur à l'époque. Alors, les théologiens moralistes se sont mis à étudier l'anthropologie. Oui, bien sûr, Lévi-Strauss, bien sûr. L'anthropologie, la linguistique, l'ethnologie, la psychanalyse, la psychologie, Piaget, par exemple, l'ethnopsychiatrie, enfin, toutes les, finalement, ce qu'on appelle les sciences humaines, hein, et sociales. Et donc, on peut dire que après Vatican II, ce sont les sciences humaines et sociales qui ont permis un renouvellement très conséquent de la théologie morale, hein, qui était en elle-même, par elle-même, en pleine décrépitude. Ça a même été des années, alors là, pour le coup, si vous pouvez faire le test, je vais faire des tests toujours dans vos librairies ou vos bibliothèques préférées. Si vous regardez la production en théologie morale dans les années qui sont les nôtres, là, même, mettons depuis 2000, c'est quand même très récent, ça va être quand même une génération malgré tout, il n'y a presque rien. Bon, je suis très dur en disant ça, mais il y a presque rien de publié, c'est-à-dire faites le test, allez à la procure, allez voir. Il n'y a presque rien que des rééditions, de rééditions en général d'un prof de la Catho de Paris qui s'appelait Xavier Thévenoud, qui a été justement un théologien qui a essayé d'insérer, de profiter de l'apport de l'anthropologie, de la psychanalyse, dans la théologie morale. Après, on a publié des colloques de théologiens. Et puis de temps en temps, il ne faut pas non plus que j'exagère, de temps en temps, quelques bonnes thèses, quelques bons... Voilà, un auteur qui a envie de traiter une question, un thème, puis le livre est bien, on publie. Mais c'est tout. Alors que si vous allez dans les bibliothèques et si vous regardez le rayon moral ou éthique, théologie, années 60, 70, encore 80, mais ça commençait à s'affaiblir, au 80, oui, encore, mais il y avait un livre tous les mois. Alors, c'est vrai que les éditeurs avaient beaucoup plus de moyens, ont publié beaucoup plus de choses, mais vous aviez une production en sciences humaines et sociales, d'ailleurs, c'était l'époque du succès des sciences humaines et sociales, donc une production tout à fait prolifique, dont profitaient les moralistes. Alors, ça a donné une créativité passionnante, et cette créativité était donc axée sur, s'il faut donner un accent au moins, sur quoi ? Sur la découverte de la condition historique de la personne humaine, Parce que introduire les sciences humaines et sociales en théologie morale, on ne le fait pas n'importe comment. L'accent le plus intéressant, l'apport le plus décisif, c'est la découverte de la condition historique du sujet. Vous voyez, d'ailleurs, moi-même, j'ai changé de vocabulaire. Je ne dis plus personne, mais je dis sujet, puisque, après tout, pour les sciences sociales et humaines, nous sommes des sujets. Le vocabulaire de la théologie, c'est plutôt des personnes. Condition historique, c'est-à-dire que l'homme n'est pas une nature. L'homme n'est pas seulement une nature toujours déjà donnée. L'homme n'est pas seulement une nature. Et je pose là le mot nature. On va avoir l'occasion de le redéployer. Mais il est très important déjà d'entendre le mot. L'homme n'est pas une nature toujours déjà donnée. L'homme est une histoire. Si je chantais la chose comme si on était en paroisse, c'est les années où on a créé le chant « Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est... » Bon, mais ça c'est en liturgie. En morale, c'est ça. En morale, c'est « L'homme est une histoire, l'homme est une construction historique. » L'homme étant, si vous voulez, en devenir. Nous sommes des sujets en devenir. Voilà rapidement résumé, grossièrement réénoncé, le message de la théologie morale après Vatican II, c'est « L'homme est un sujet en devenir. » Avant Vatican II, l'homme est une nature inchangée et inchangeable. C'était finalement, avant Vatican II, le succès de la notion dont je vais parler, bien entendu, de la notion très, très catholique de loi naturelle. Je redéploierai dans les cours qui vont venir ce qui touche à la nature et à la loi naturelle, mais vous pouvez déjà répéter avec moi l'antienne que je vous propose, c'est-à-dire que l'homme n'est plus une nature toujours déjà donnée, l'homme est un sujet en devenir. Je vous assure que ça change complètement le regard sur nos vies. Ça change absolument tout, c'est-à-dire, je prends un exemple tout simple, mais complètement central, le synode sur la famille. Le pape François avait formé un groupe d'experts, alors genre shadow cabinet, vous savez, il ne fallait pas dire qu'ils en étaient, mais ils en étaient. Ils vont à Rome, mais ils prennent des avions sans qu'on les voit, etc. Donc cette espèce de shadow cabinet, dont je ne faisais pas partie, je vous dis tout de suite, mais je sais qui en fait partie, sur l'acte moral. L'acte moral, c'est un des monuments de la théologie morale, c'est un des piliers de la théologie morale. Qu'est-ce qu'un acte en morale? Dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est un acte est bon ou un acte est mauvais. S'il est bon, vous pouvez y aller, feu vert. S'il est mauvais, c'est même pas la peine d'essayer. C'est-à-dire, vous pouvez invoquer les circonstances, vous pouvez invoquer l'intention. S'il est mauvais, il est mauvais, c'est fini. Dans une morale naturelle, l'acte, il est bon ou il est mauvais. Mais, dans une morale post-conciliaire, où vous êtes pleinement conscient ou consciente que vous êtes un sujet en devenir. Un sujet en devenir, si on réfléchit à la question « qu'est-ce qu'un acte moral ?», on est obligé de poser la notion de gradualité de l'acte. C'est-à-dire, c'est très simple à comprendre, un acte que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, parce que un jeune, par exemple, n'a pas la maturité suffisante, et donc il ne peut pas le poser aujourd'hui, parce que, vous avez un contexte économique qui ne vous permet pas de poser cet acte, etc. deux mois après, deux ans ou vingt ans après, le même acte, vous aurez acquis les outils intellectuels, économiques, sociaux, culturels pour cette fois-ci poser cet acte. Autrement dit, l'acte, il n'est pas bon ou mauvais en lui-même. Il est bon ou mauvais selon la gradualité et donc la progressivité du contexte. C'était évidemment explosif de concevoir la théologie morale ainsi. Et là où je dis que le silence sur la famille a échoué, c'est que il n'y a rien sur l'acte. Donc ils ont fait, je sais qu'ils ont fait ce groupe sur la théologie de l'acte, on a fait un ou deux colloques, puis c'est pas allé plus loin. C'est pas allé plus loin parce que faire bouger la question de l'acte, si vous voulez, c'était faire bouger un des rouages majeurs du dispositif.
Hein. C'est-à-dire qu'on en est encore à l'acte bon ou mauvais ?
Absolument, oui. Ce qui est en vigueur, c'est la théologie de l'acte dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est ça qui est en vigueur. Pas autre chose. Enfin, timidement, le synode sur la famille s'est mis à reparler de gradualité. Tout de même, mais la gradualité est encore une notion très 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 mal acclimatée en théologie catholique. Alors, voyez, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu un changement d'axe très important. Il ne faut surtout pas imaginer, par commodité de langage, je dis Vatican II a fait ceci, Vatican II a fait cela. Il y a une morale avant Vatican II, une morale post-conciliaire. C'est évidemment faux. C'est pas que je suis en train de vous dire des fake news, mais je suis en train de vous dire que, simplement, c'est par commodité de langage. Vatican II a été préparé bien avant Vatican II, et Vatican II n'est que l'aboutissement de courants qui l'ont préparé, et des papes qui l'ont préparé. Hein, bon, mais on s'est habitué, alors méfiez-vous des habitudes, hein, mais on s'est habitué à parler comme ça pour dire, c'est vrai, il y a un avant et un après Vatican II. C'est assez caricatural, mais bon. Mais si je fonce dans la caricature, ça donnera quoi ? Avant Vatican II, c'est une morale naturelle ou une morale de l'acte. Après Vatican II, c'est une morale historique. Mais c'est une morale historique d'abord pour les théologiens. Pour les théologiens. Ça n'est pas une morale historique pour le magistère. Hein. Le magistère est toujours un magistère qui privilégie la morale de l'acte et la morale de la nature. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que depuis Vatican II, pas seulement en morale, mais en morale aussi, il y a...
Vous pouvez reprendre, excusez-moi,
oui. Oui. Alors, non, c'est pas possible ça.
Si. Avant Vatican II, on est sur une morale naturelle.
Oui.
Après Vatican II, on est sur une morale de l'acte.
Non. Non.
Ouais.
Avant Vatican II, c'est une morale naturelle et une morale de l'acte. Mm-hmm. Je vais illustrer ça, comme ça, ce sera plus simple. Et après Vatican II, c'est une morale historique. Et je complétais en disant une morale historique, c'est-à-dire Mais pour les théologiens, je donnais le cas de Xavier Thévenot, mais je pourrais donner des cas dans d'autres pays, etc. Finalement, il n'y a pas eu tellement de grands théologiens moralistes, il n'y a pas eu tant que ça. Mais ils ont tous, si vous voulez... Non, ce serait très, très exagéré. Mais ils ont pour beaucoup adopté une morale historique qui favorisait quoi ? Je reviendrai aussi sur cette notion, l'autonomie. L'autonomie du sujet et la responsabilité du sujet. L'autonomie responsable du sujet. L'autonomie responsable du sujet. Privilégier une morale historique, c'est privilégier en définitive une morale de l'autonomie responsable du sujet. tous ces termes-là que je ne fais que je les pointe, là, vous les découvrez, oui, vous les découvrez, on va les ensemble les approfondir, on a 5 rencontres. Mais vous pouvez déjà les poser, parce que c'est ça. Hein. La morale après Vatican II, c'est une morale qui favorise l'histoire, la progression historique du sujet qui se construit, donc qui construit son autonomie, donc qui devient responsable, ben, responsable de ses actes. Tout simplement, mais horreur pour certains, parce que une morale où le sujet devient autonome et responsable de ses actes, si c'est une bonne nouvelle pour certains, c'est une catastrophe pour d'autres, parce que c'est une morale relative et une morale moderne. Hein. Une morale moderne, une morale relative, c'est-à-dire, vous comprenez bien, rappelez-vous peut-être, bon, enfin, non, il a pas, Benoît XVI n'avait pas dit ça au Collège des Bernardins, mais il l'a écrit très souvent, il l'a stigmatisé très souvent. Hein. Le problème des morales que je suis en train de citer, c'est que elles font le lit du relativisme. Donc, le piège, et il avait raison, le piège qui, la bombe qui risque d'exploser, et elle a explosé de toute manière sous nos pieds, c'est qu'avec le triomphe de l'autonomie responsable, nous avons également charrié dans le même mouvement, je dirais presque en même temps, un certain relativisme. C'est-à-dire, finalement, une morale de l'opinion. La morale du sujet responsable est souvent devenue, tout simplement, tout bêtement, une morale de l'opinion. Et alors, vous arrivez, par exemple, à une vraie question. Hein. Y a-t-il une opinion catholique dans l'Église ? Est-ce moral qu'il y ait une opinion catholique dans l'Église ? Est-ce moral de demander aux laïcs d'acquérir une opinion autonome, responsable ? Ou bien est-ce qu'on ne va pas arriver à une forme de dictature du relatif, pour ne pas dire du relativisme ? Et pour mieux répondre à la question qui m'a été posée, nature ou acte, en réalité, donc la morale d'avant Vatican II, mais que vous retrouvez abondamment dans les textes du magistère d'aujourd'hui, hein, sauf François, mais avant François, vous retrouvez le focus sur la nature. C'est-à-dire, c'est la question de est-ce naturel ? Est-ce naturel ou contre-nature ? Si c'est naturel, c'est-à-dire... Naturel, ça veut dire, on va le redétailler, mais naturel, en gros, ça veut dire sans intervention de la technique. Mais là, à ce compte-là, on arrête Internet, l'électricité, etc. Mais bon... naturel, si c'est naturel, c'est bon. Si c'est pas naturel, c'est pas bon. Je dis ça parce que ça concerne tous les domaines de la morale familiale et sexuelle. Ça, c'est le focus dont nous ne sommes pas sortis. C'est beaucoup plus facile de faire de la morale économique ou sociale. En morale économique et sociale, regardez comme le pape François est à l'aise. Même si on n'aime pas souvent, et les gens disent « Oh, les migrants, on a marre des migrants, François, avec les migrants, il y en a assez », on l'entend, tout ça. Hein. Mais, je veux dire, sur la morale économique et sociale, vous pouvez y aller, là. Vous pouvez contester le capitalisme au nom de l'Église. Sur la morale économique et sociale, vous avez un domaine d'innovation et de paroles prophétiques qui seront soutenues par le magistère. Parce que, c'est, je veux dire, la loi naturelle n'intervient pas tellement, là. Mais sur la morale sexuelle et familiale, c'est pas possible, parce que c'est le domaine où règne la loi naturelle. Ce qui est conforme ou pas à la nature, c'est-à-dire dans la morale sexuelle et familiale, le but étant la procréation et le renouvellement de l'espèce. Oulala, là, je caricature beaucoup, mais je force exprès, je caricature exprès pour que ce soit bien dans vos têtes. Voilà. Il y a le père Jean-Yves Calvez, de pieuse mémoire, qui était jésuite et qui enseignait la, la morale au centre Sèvres disait il y a une morale à deux vitesses. L'Église catholique a une morale à deux vitesses. L'Église catholique met le pied sur l'accélérateur pour tout ce qui est économique et social. Quitte à contester d'ailleurs les sociétés en place. Regardez François. Vous n'accueillez pas assez les migrants. Moi, je vous demande d'accueillir les migrants. Les méfaits de la mondialisation. Lorsque le pape parle de la mondialisation de l'indifférence. Donc, sur la morale économique et sociale, nous sommes capables de mettre le pied tout le temps sur l'accélérateur. En France, l'abbé Pierre. Le logement. Voilà. Mais, vitesse beaucoup plus réduite, pour ne pas dire marche arrière, ou point mort, sur la morale familiale et sexuelle. Parce que l'hypothèse que je fais, mais elle est faite par beaucoup, je ne suis pas très original, c'est que c'est le domaine, en effet, de la loi naturelle. Et là, on n'a pas encore réussi, si tant est qu'il faille le faire, moi j'en sais rien, après tout. Je vous décris une situation, je souhaite un dominicain très jésuite que vous avez devant vous, mais je vous décris une situation, soit la morale naturelle, sur la morale sexuelle et familiale, on n'a pas encore réussi à s'autoriser à la renouveler. Alors peut-être que, et je terminerai par là aujourd'hui, les scandales, mon hypothèse c'est que les scandales sexuels de l'Église catholique à l'heure actuelle proviennent de cette congélation de la morale sexuelle. Et une des grandes origines, pour moi, une des causes principales des scandales actuels, c'est que nous n'avons pas actualisé, depuis le Concile, nous n'avons pas actualisé ce qu'est notre morale sexuelle et familiale. Les scandales actuels se sont nourris, ont prospéré sur la congélation de la morale sexuelle et familiale, et en particulier à cause du cléricalisme. Dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, je vais arrêter là, avec quelques minutes d'avance, parce que j'ai donné un rendez-vous assez loin dans Paris et je n'ai pas mesuré mon déplacement entre les deux sites. Mais voilà, on est presque arrivé à la fin de la séquence. Donc la prochaine fois, je vous apporte la bibliographie et puis bien, nous commençons les éléments d'histoire de la théologie morale. Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Il y a beaucoup de textes, comme il y aurait pu.